Ce matin, on commence une série, mais avant de commencer la série, je voulais vous faire des recommandations de lecture pour l'été, d'accord? C'est un bon moment pour lire pendant l'été, juste vous stimuler. Y a-t-il quelqu'un qui a une Bible? Y a-t-il quelqu'un qui a une vraie Bible, tu sais, en papier? Tu sais, comme dans le temps, là? Oui, tu veux-tu me passer ta Bible, Yves, s'il te plaît? Les gars, c'est sûr qu'ils n'ont pas des vraies Bibles, eux autres. D'ailleurs, moi, j'en ai pas ce matin sur l'estrade. Évidemment, la première recommandation de lecture, c'est ça ici. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle de Yves. Vous pouvez lire la Bible avec une fausse Bible comme moi, c'est-à-dire informatique ou audio, peu importe. Mais la semaine dernière, je vous ai lancé un défi. Vous vous rappelez? Méditez toute la semaine sur un long verset. Deux mots, Jésus pleura. Vous vous rappelez? Alors, peut-être qu'on peut trouver un petit peu plus long cette semaine. Mais si vous ne prenez pas du temps régulièrement dans les Saintes Écritures, quotidiennement, je vous exhorte de tout mon cœur à prendre du temps dans la parole cet été. La cadence ne ralentira pas plus que cet été, d'accord? Ça va juste reprendre un autre rythme assez chaotique au mois de septembre. Vous connaissez la réalité. Alors, trouvez un moment pour lire. Si vous êtes avec les enfants tout le temps, vous dites, c'est difficile de trouver un temps pour moi. Faites-le en famille, lisez un psaume, bref, ensemble. Partagez avec les enfants, mais tous les jours, un temps dans la parole. Merci. Quelques autres livres pour vous. On va afficher 4 livres, mais avant, je voulais mentionner un autre livre. En fait, je ne sais pas si on a une image de ce livre-là, « Jusqu'à quand » de Donald Carson. On commence une série sur la souffrance, la maladie. C'est une courte série de 3 semaines. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me posait des questions. Est-ce qu'on va couvrir ça? On va couvrir ça. Bien honnêtement, on pourrait faire de nombreuses semaines sur la souffrance, la maladie. On aurait pu traiter dans ça le deuil, la mort, d'accord? Il y a énormément à dire parce que les expériences sont multiples et parce que les Écritures couvrent beaucoup ce sujet-là à travers toutes les Saintes Écritures. On va seulement passer 3 semaines sur ce sujet-là. Alors, ceux qui aimeraient aller plus loin au niveau de la souffrance de la maladie, je vais mettre sur mon fil Facebook pendant la semaine quelques autres recommandations, d'accord? Mais je voulais au moins mentionner celui-là. Vous pouvez vous le procurer en anglais ou en français. La version originale est en anglais. « Jusqu'à quand, Seigneur? How long, O Lord? » de Donald Carson. Don Carson est un grand théologien du Nouveau Testament, mais un théologien avec vraiment un cœur de berger, un cœur de pasteur. Et donc, ce qu'il fait dans ce livre-là couvre assez, de manière assez complète, ce que Dieu a à dire sur la souffrance, comment Dieu travaille à travers la souffrance dans nos vies, et comment est-ce que Dieu nous demande, nous, de répondre à la souffrance, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la patience, que ce soit dans un processus de transformation personnelle. Alors, je veux vous encourager, si la série ne fait que vous mettre l'eau à la bouche, aller plus loin avec ça, en anglais, en français, d'accord? Et le message que je vais apporter ce matin, il y a beaucoup d'éléments qui sont inspirés de ce livre-là, d'éléments qui sont là dans le livre. On est toujours dans les Écritures, mais je voulais reconnaître ça ce matin parce que pour moi, c'est un excellent ouvrage sur la souffrance, sur la maladie. Alors, quelques suggestions de lecture. Ceux-là, ce sont des livres qu'on a ici à la librairie. Christian sait que vous allez peut-être aller le voir après le service. « Résoudre les conflits au quotidien, quotidiennement ». Un livre très pratique, bref, d'accord? On a voulu choisir quelques livres qui n'étaient pas trop longs, donc c'est presque une plaquette, c'est quelque chose à lire en couple, c'est quelque chose à partager en famille, c'est quelque chose à partager avec des amis. Très excellent avec Ken Sandé, qu'on a eu comme conférencier, maîtrise son sujet vraiment très, très bien et très, très concret et très pratique, d'accord? Et il y a toujours un accent sur l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile vient faire au cœur du conflit aussi? Un grand classique de la littérature chrétienne évangélique, Connaître Dieu, Knowing God, de G.I. Packer, pour les tout jeunes chrétiens, puis pour les moins jeunes chrétiens, d'accord? On voit vraiment l'essentiel de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'Évangile, de ce qu'est le salut, mais de manière très concrète. Ceux qui connaissaient un peu les puritains, G.I. Packer est un de nos contemporains, toujours vivant, mais il s'inscrit dans son approche de la théologie, dans la grande tradition des puritains qui cherchaient toujours à prendre la théologie et à voir concrètement comment est-ce que ça s'applique dans mon cœur, comment ça s'applique dans mes relations, comment est-ce que ça s'applique au quotidien, ces grandes vérités-là. Et donc, lorsqu'on lit ça, on apprend sur Dieu, mais on est porté vers la louange, on est porté à examiner nos cœurs et à chercher à grandir. Ce livre-là, il faut que vous le lisiez dans votre vie, d'accord? Pas obligé de le faire cet été, vous devez lire ça de votre vivant, c'est bon? ben après, il devrait avoir des meilleures choses à aller de l'autre bord. Mais vous devez lire ça, d'accord? Paul Miller, plusieurs personnes ont été vraiment, ont sorti grandies, édifiées par cette lecture-là, une vie en prière de Paul Miller, une approche que vous n'avez jamais connue sur la prière. Je vous le dis, une approche que vous n'avez jamais rencontrée sur la prière, très personnelle, dans sa propre vie, très concrète, beaucoup axée sur la relation avec le Père Céleste. Vous allez découvrir votre Père Céleste comme vous ne l'avez jamais connu si dans votre vie de prière, vous n'avez pas cette expérience d'intimité régulière avec Dieu. D'accord? Cette simplicité, une grande simplicité. Vous terminez ça, puis vous ne dites pas, ouf, la prière, c'est pour des saints très spéciaux, c'est pour des gens très, très pieux. Non, c'est pour tous ceux qui, à toutes sortes de moments, se sentent petits, petits devant la vie, petits devant Dieu, mais connaissent leur Père. Une vie en prière de Paul Miller. Un livre un petit peu plus solide, d'accord, pour pousser la réflexion un peu plus loin. Le Dieu qui est là, aussi de Don Carson. Oui, je suis un fan de Carson. Le Dieu qui est là de Don Carson, c'est une. Je vous dirais, si vous êtes en démarche, vous êtes en recherche, vous êtes en train d'examiner le christianisme, puis vous dites, oui, peut-être, peut-être pas, je suis pas certain. Et puis, comment est-ce que la foi chrétienne a rapport avec ma vie à moi? Ça semble être une foi pour une autre époque, ça semble être quelque chose de théorique. Dans ce livre-là, Don nous aide à comprendre l'histoire de Dieu à travers toutes les Écritures et comment est-ce que notre histoire à nous vient s'inscrire dans l'histoire de Dieu. En termes théologiques, c'est un ouvrage d'apologétique, d'accord? C'est un ouvrage de défense de la foi où ça nous aide à comprendre comment est-ce qu'on présente l'histoire de Dieu à notre époque. Mais quelqu'un qui n'est pas chrétien peut le lire, va vraiment être initié dans l'histoire de Dieu. Puis quelqu'un qui est chrétien depuis plusieurs années va apprendre un peu plus comment raconter l'histoire de Dieu pour aller rencontrer l'histoire des gens dans leur vie personnelle. Alors si des fois vous avez l'impression que vous abordez tout le sujet de la foi avec des amis, puis vous avez l'impression que c'est déconnecté, c'est d'une autre époque tout ça, avec cet ouvrage-là, vous allez apprendre comment aller les rejoindre dans leur histoire à eux, en leur apportant justement le récit de l'histoire de Dieu. C'est bon? Donc, 4 suggestions de lecture, une 5e avec celle sur la souffrance et la maladie. On va passer ensemble à 2 passages des Écritures pour se préparer à entrer dans cette série. Et c'est notre frère Joël qui va nous faire la lecture, Joël Neves, il va nous lire 2 passages. On va aller ensemble dans un mot de prière avant ça.
Alors, les passages bibliques de ce matin sont tirés du livre de Romains au chapitre 5, versets 1 à 5, édition Louis II, et du livre de 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 3 à 6, édition Louis II également.
Je vais juste dire un mot de prière, c'est bon. Seigneur notre Dieu, on veut te demander de préparer nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous donner, Seigneur. Viens nous rencontrer ce matin. À travers les Écritures, à travers l'exposé, le partage que je vais faire, à travers le témoignage tout à l'heure, Seigneur. Viens nous parler là où nous sommes, dans notre histoire très personnelle, Seigneur, et viens nous parler de toi. Comment tu viens nous rencontrer là où nous souffrons, comment tu viens rencontrer les gens à travers leur maladie, à travers leur souffrance, Seigneur. Père, on a particulièrement besoin ce matin de percevoir dans nos cœurs l'œuvre de ton esprit qui nous parle, qui nous touche, qui nous encourage, qui nous éclaire, nous soutient, Seigneur. Parce que cet endroit de souffrance, c'est un endroit de solitude, Seigneur. Et chacun d'entre nous, lorsque nous passons par des moments de souffrance aiguë, le sentiment qui s'impose généralement, c'est celui d'une profonde, d'une grande solitude, Seigneur. Alors ce matin, Père, je te prie de manifester ta présence à travers tout ce qui va être dit, partagé, chanté ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu.
Alors, Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 2 Corinthiens 1, 3, 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons.
Merci. Alors, ce matin, on commence une série sur la souffrance et la maladie. Puis juste pour vous donner une petite idée comment la série va se développer, en fait, les deux prochains messages vont être des prédicateurs invités, puisque la famille Étier tombe en vacances ce soir. Et donc, ce matin, ensemble, on va voir que Dieu parle par la souffrance. Et puis, ça va être suivi d'un court témoignage tout à l'heure. Mon épouse Esther va venir donner un témoignage dirigé par Annie, qui va la passer un petit peu, qui va faire une entrevue avec elle. Ensuite de ça, la semaine prochaine, on va voir Pierre Constant, docteur en théologie, vraiment un grand érudit du Nouveau Testament particulièrement. Et puis, on lui a demandé de venir partager un petit peu plus ce que l'ensemble des Écritures, ce que l'ensemble de la Bible dit sur la souffrance et sur la maladie. Et la semaine suivante, c'est-à-dire le 3 août, c'est mon frère Hugo Étier qui va venir apporter le message, qui va être plus court, qui va nous parler cette fois-là de la souffrance de Dieu. Il va nous parler de la souffrance de Dieu, et c'est ce matin-là que notre sœur Irène, qui est venue juste introduire son témoignage la semaine dernière, elle va nous donner un témoignage plus long, une bonne vingtaine de minutes, parce qu'Irène a passé à travers de beaucoup de souffrances physiques. Et elle va venir nous partager comment est-ce que Dieu l'a accompagnée dans ça, qu'est-ce que Dieu lui a appris à travers ça, et qu'est-ce que Dieu fait à travers ça. Quand j'ai approché Richard Roule pour lui dire que j'aspirais à être pasteur, il y a de cela, je ne sais pas, peut-être 20 ans maintenant environ, en plus que ça encore, peut-être 22 ans, je vais toujours me rappeler. À un certain moment donné, on était assis ensemble, puis Richard m'a dit, pour moi c'est M. Hull encore, il m'a dit, Yannick, si tu veux être pasteur, il faut que tu te prépares, il faut que tu acceptes que tu vas beaucoup souffrir. Parce que Dieu forme toujours ses serviteurs à travers la souffrance. Dieu forme toujours ses serviteurs à travers la souffrance. Cette phrase-là va rester dans ma mémoire pour l'éternité, je pense. Et je peux dire, par la grâce de Dieu, ben, je trouve que je n'ai pas beaucoup souffert personnellement. J'ai souffert personnellement, psychologiquement, par des deuils, par des départs dans ma jeunesse, tout ça. Mais Dieu m'a beaucoup épargné, je dois dire. Et c'était d'autant plus important pour moi qu'il y ait d'autres personnes qui viennent donner des témoignages à travers la série pour que vous puissiez vous identifier avec des gens qui ont plus souffert que moi, par exemple. Mais en même temps, je vous dirais, à travers la vie puis à travers le ministère pastoral en particulier, j'ai assisté à beaucoup de souffrances. J'ai vu beaucoup de souffrances de tous les gens. J'ai fait des services funéraires pour des gens qui s'étaient suicidés, d'accord? Donc, toutes les souffrances que vous pouvez imaginer, j'ai accompagné par la grâce de Dieu beaucoup de gens qui ont souffert. Et je sais que Dieu se sert de la souffrance d'une manière incroyable et extraordinaire, même si la souffrance est incroyablement frustrante dans nos vies. Parce qu'elle vient mettre un frein, elle vient menacer, elle vient bouleverser tout notre univers, particulièrement lorsque cette souffrance-là devient aiguë. Alors ce matin, on va voir ensemble que la souffrance et la maladie, c'est quelque chose qui nous frustre, c'est quelque chose qui nous arrête, c'est quelque chose qui nous bouleverse, d'accord? Mais en même temps, la souffrance et la maladie sont de puissants pédagogues entre les mains de Dieu. La souffrance et la maladie sont de puissants pédagogues entre les mains de Dieu. Première chose que je voudrais dire, c'est que la souffrance est une expérience universelle. Il y a peu de choses chez les êtres humains, dans l'histoire de l'humanité, qui nous rassemble, qui nous ramène sur un pied d'égalité. Chacun d'entre nous, à travers tous les âges, comme la souffrance, la maladie et évidemment la mort. C'est universel. Si vous n'avez pas souffert encore, c'est juste que vous n'avez pas vécu assez longtemps, d'accord? On va tous souffrir. Certains d'entre nous vont souffrir toute leur vie. D'autres vont souffrir une partie de leur vie. Certains vont souffrir vers la fin de leur vie. Chacun d'entre nous, nous allons mourir. Chacun d'entre nous, nous allons traverser des deuils. Et ça, c'est de la souffrance. Et donc, la souffrance, la maladie sont des expériences universelles qui nous rendent tous semblables. Chrétiens, non-chrétiens, croyants, non-croyants, de tous âges, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les nations de la terre, c'est quelque chose d'universel. À travers les âges, on a vu les hommes réagir et répondre de manière différente. En Occident, de plus en plus, c'est la fuite de la souffrance. Plutôt que d'y faire face et de voir à travers la souffrance un pédagogue qui forge, qui forme, qui transforme le caractère humain, on prend toutes les ressources disponibles pour fuir la souffrance, d'accord? On voit ça comme un mal à chercher à éviter. De nombreuses cultures encore sur la terre ne voient pas cela comme ça. Ils souffrent bien sûr, mais assument la souffrance, embrassent même la souffrance pour le voir comme des phases, comme des étapes, comme des moments nécessaires, formateurs, et même des moments rassembleurs. Et donc la souffrance est quelque chose d'absolument universel. J'ai demandé à Manon qui sert avec nous au bureau pendant la semaine, je ne voulais pas les choisir moi-même, d'aller dans l'actualité puis prendre des images de souffrance. Simplement pour voir, pour souligner à quel point c'est universel. Alors, si on peut afficher les images, s'il vous plaît. Et donc, cette semaine, évidemment, une souffrance absolument terrible, l'écrasement de l'avion en Malaisie, le fruit de l'erreur humaine, de la bêtise humaine, mais il y a maintenant des milliers de personnes qui souffrent à cause de cela actuellement avec cet avion qui s'est écrasé. 238 morts, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc, énormément de souffrance qu'il y a. Ça, une autre image, s'il vous plaît. Le conflit Israël-Hamas, où on ne voit pas comment ça va se terminer, tout ça, puis ça va de souffrance en souffrance. Et en réponse à la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? On inflige davantage de souffrance encore. Une autre image, s'il vous plaît. Ici, au Canada, le triple meurtre présumé des deux grands-parents et du petit-enfant à Calgary, d'accord, où cette fois-là, tout le village est rassemblé. Mais tout ce qu'il y a dans les cœurs, c'est pourquoi? 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 Toutes ces souffrances-là sont liées à l'erreur, la bêtise, la méchanceté de l'homme, c'est vrai. Ce sont tous des souffrances qui, mais en même temps, ont des dimensions différentes parce que les gens qui sont dans le deuil, si par exemple, les corps de ces victimes-là ne sont pas retrouvés, vont vivre un deuil totalement différent de la majorité des deuils qu'on va vivre ici. Une dernière image, s'il vous plaît. Alors, le suicide d'une policière à Lévis qui est survenu, d'accord? Et donc là, c'est le suicide et c'est les gens qui sont autour et qui se sentent totalement abandonnés, des fois trahis, des fois dans l'incompréhension à travers toute cette souffrance-là aussi, d'accord? La souffrance est quelque chose d'universel. C'est pourquoi la Bible en parle énormément. Si vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures et que vous commencez à lire la Bible, vous allez rencontrer énormément de souffrances. C'est une des choses que les chrétiens apprécient beaucoup de la Bible, c'est que la Bible est très honnête sur l'expérience humaine. Très franche, très lucide sur le cœur humain, l'hypocrisie du cœur humain, les mensonges, tout ça. Mais cette réalité-là de la souffrance aussi, c'est constamment là dans les Écritures. Et donc, la Bible a énormément à dire. La Bible explique la souffrance. Lorsqu'on parle de théologie, les Écritures nous donnent une manière de comprendre la souffrance, pas toujours lorsqu'on est dedans la souffrance, mais elle nous donne un cadre pour saisir qu'est-ce qui se passe avec la souffrance dans le monde, qu'est-ce qui se passe avec la souffrance dans ma vie. Et des fois, on reste avec de grands pourquoi, mais il y a ce cadre-là en même temps qui est présent dans les Écritures. La Bible crie et pleure la souffrance. Pensez aux psaumes, pensez au livre de Job particulièrement. Et donc, des millions de personnes à travers les âges se sont tournées vers les Saintes Écritures, vers la Bible, pour aller être consolées, pour aller vivre leur souffrance. Avec le psalmiste, avec David, avec Job, tout simplement aller là, aller à la croix avec Jésus et vivre leur souffrance. La Bible crie et pleure la souffrance. Et la Bible console. La Bible console particulièrement à travers l'Évangile, à travers cette bonne nouvelle, cette espérance qu'on a en Jésus-Christ, où on voit cette compassion de Dieu qui vient s'identifier avec notre souffrance, le Dieu souffrant lui-même sur cette croix, Dieu le Fils. Et donc la Bible vient consoler d'une manière unique à cet endroit-là, à la croix, dans la mort et la résurrection de Jésus. On va voir ça davantage dans le troisième message de cette série. Et enfin, la Bible donne de l'espoir. De l'espoir que cette souffrance-là prendra fin et qu'un jour viendra pour ceux qui se confient en Jésus-Christ, un jour viendra où il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort. Seulement cette expérience qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, à laquelle on est appelé, qui est de vivre à la gloire de Dieu, de glorifier Dieu dans sa sainte présence. Et les Saintes Écritures nous pointent dans cette direction-là. Donc la Bible parle énormément de cette expérience universelle. Et ce que j'ai envie de vous dire ce matin en commençant cette série, c'est que comme on parle d'une expérience universelle, je crois que une des manières que les Saintes Écritures nous aident le plus, c'est dans la préparation à la souffrance. Dans la salle ici, il y a peut-être un tiers des gens qui ont souffert énormément. Vous pourriez, n'importe qui d'entre vous, venir sur l'estrade apporter un témoignage de souffrance, peut-être plus encore, peut-être la moitié. Certains d'entre vous, vous craignez simplement ce que vous n'avez pas connu encore. La sagesse dans la parole de Dieu nous dit qu'on peut se préparer à ces choses-là. Et donc, je crois que cette série est là pour consoler, est là pour instruire, pour enseigner celui qui souffre, mais elle est là pour nous aider à nous préparer à la souffrance parce qu'elle est universelle. Vous allez souffrir. C'est sûr. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je suis un prophète réaliste. Vous allez souffrir. Je vais souffrir. Et plutôt que simplement dire à chaque jour, « Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup souffert et j'ai peur du jour où je souffrirai. » Les Écritures sont là pour me préparer. Elles sont là pour me préparer à vivre ça. Et je vais me rappeler chaque jour de ma vie, lorsque je vais en avoir besoin, je vais me rappeler de ma sœur Colette Villeneuve, qui, lorsqu'elle a appris qu'elle avait une récidive du cancer, avait dit un mot de témoignage, on l'avait présenté ici. Elle avait dit, dans le fond, Dieu est en train de me dire que tous les versets que j'ai mémorisés depuis toutes ces années-là, il veut m'amener à les mettre en pratique maintenant. Et je vais simplement aller mettre en pratique tout ce que j'ai appris sur la souffrance, la maladie. Alors, voyez cette série-là comme une préparation à la souffrance et à la maladie, d'accord? Voyez-la comme ça, comme l'occasion de préparer vos cœurs à la souffrance et à la maladie. Puis en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune manière de se préparer à la souffrance et à la maladie. Dans un sens, il n'y a aucune vraie manière de le faire. La seule chose que tu peux faire, c'est t'approcher de Dieu, puis t'as collé bien tête sur le Seigneur, puis dire, Seigneur, quitte-moi pas, reste juste là, je veux rester juste là à côté de toi. Parce que pour ceux d'entre vous qui avez vécu des moments de souffrance, de maladie, de souffrance aiguë et profonde, il vient un moment où toute la théologie du monde ne console pas du tout. Parce qu'au milieu de cette douleur-là, la seule chose qui sort du cœur, c'est « Pourquoi, Seigneur, est-ce que ça peut arrêter, Seigneur? » Et ce n'est pas tout le monde qui va vivre une souffrance aussi aiguë que celle-là, mais lorsqu'on doit passer par ce chemin-là, tout ce qui sort du cœur, c'est pourquoi, Seigneur? Et il y a un profond sentiment à quelque part d'injustice qui s'installe malgré toute la préparation du monde, malgré toute la théologie du monde. Et encore une fois, les Saintes Écritures sont super honnêtes là-dessus. On trouve ça dans le livre de Job. Vous aviez un homme fort dans le Seigneur, droit comme une barre, solide, solide dans sa théologie, qui jamais à travers sa souffrance a renié Dieu, mais à un certain moment dans sa souffrance aurait voulu comparaître devant Dieu. Puis à quelque part, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, c'est « Seigneur, il va falloir quand même que tu m'expliques à un moment donné. » Puis il dit dans des termes encore plus directs. Direct. Dans Job 10, les versets 1 et 2, voici ce qu'il dit. « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi voir pourquoi tu me prends à partie. Pourquoi tu t'en prends à moi, Seigneur. » Cet homme-là est un homme droit devant Dieu. Quelqu'un de qui Dieu pouvait se présenter devant le diable puis dire, « Vois-tu mon serviteur Job? Il est droit comme une barre. » Alors, je tiens à dire aussi que si les Écritures nous préparent à la souffrance et à la maladie, plusieurs d'entre nous, on va être appelés à passer par un sentier, par un endroit où toute la théologie du monde ne te soutient plus. Et il y a ce cri, cette frustration profonde. Criez à Dieu. Criez à Dieu, même si c'est pourquoi. Criez à Dieu. C'est correct. C'est correct. Allez à la fin du livre de Job, vous allez voir ce que Dieu dit à son serviteur Job et comment il fait grandir à travers cette épreuve-là. La souffrance et la maladie tendent à nous isoler les uns des autres. Et lorsque certains d'entre nous passons par ces moments-là de souffrance très, très aiguë, on a tendance à se retirer. Le sentiment d'être un poids, un fardeau pour les autres, le sentiment que personne ne peut venir nous rejoindre, nous comprendre à cet endroit-là. Et souvent, les gens autour de nous ne comprennent pas. Et donc, il peut y avoir un malaise qui s'installe à cet endroit-là, à ce moment-là où je ne sais pas comment atteindre l'autre. Et souvent, il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à faire, rien d'autre à faire que d'être présent, en silence. Juste être là, juste être là. Si seulement les amis de Job avaient compris ça puis avaient fermé le grand boîte. Il était bien parti. Il était bien parti tant qu'il restait en silence. La souffrance et la maladie sont universelles, mais ce sont aussi de puissants pédagogues par lesquels Dieu parle aux hommes, par lesquels il nous parle. Et avant d'aller dans une manière plus intime, plus concrète, je vais être très, très bref sur ce point-là, mais en même temps, il est super important. Et M. Constant va probablement l'aborder un petit peu plus la semaine prochaine, le développer un peu plus. La souffrance, la maladie dans nos vies, et ça c'est quelque chose de super important si vous n'êtes pas familier avec une vision du monde, une vision de la vie, de la mort chrétienne, c'est super important de savoir ça. Parce que ça change tout dans notre perspective des choses. La souffrance, même dans nos vies et dans le monde, annonce un jugement et annonce une autre vie. La souffrance dans nos vies, dans le monde en général, annonce un jugement de Dieu et annonce une autre vie. Et lorsque je dis ça, pour moi, ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose qui est là profondément, une conviction profonde qui change ma manière de voir les choses. La souffrance et la maladie, la mort aussi, nous rappellent que nous sommes pèlerins sur la terre. Voyez-vous, pour le chrétien, on regarde la mort, la maladie, la souffrance, puis il y a ce sentiment que les choses ne devaient pas être ainsi. Il y a ce sentiment qu'on ne devait pas vivre comme ça pour mourir. Il y a ce sentiment que mon âme, à quelque part, est éternelle, puis est appelée à plus que ça. Cette espèce de « je vis, je grandis, puis à un moment donné, je fais juste lutter pour ne pas décomposer trop vite. » Parce qu'à quelque part, je me dis, mais ça ne devait pas être comme ça. Et ça, c'est le cadre, c'est la vision du monde, c'est la vision de la souffrance, de la maladie, même de la mort des chrétiens. Parce que pour nous, chrétiens, nous sommes pèlerins sur la terre, nous attendons autre chose. Et là, je vous ramène très rapidement dans Genèse 2, verset 16-17. au tout début du livre de la Genèse, Dieu avait annoncé un jugement sur l'humanité. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et donc, l'humanité, en se détachant de Dieu, en se rebellant contre Dieu, a appelé un jugement sur elle-même. Où Dieu a dit, « Je ne permettrai pas à l'homme, à l'être humain, de vivre éternellement dans cet état de rébellion où il s'entretue, où il se dévore les uns les autres, où il rejette leur Créateur. Je vais mettre une fin à leur vie pour les amener dans une autre vie. À ceux qui se tourneront vers moi pour les amener dans une autre vie dans ma présence. » Et donc, c'est super important. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on passe par le deuil, comme chrétien, la première chose que la souffrance doit nous rappeler, avant d'aller vers des leçons très personnelles, la première chose que la souffrance, la maladie doivent nous rappeler, même les tragédies, c'est que nous sommes pèlerins sur la terre. On est pèlerins sur la terre, pour nous sommes de passage, et on se prépare à aller dans la présence de Dieu. Notre véritable espoir n'est jamais dans la délivrance d'une souffrance immédiate ici. Notre véritable espoir est toujours dans la vie à venir avec Dieu. Amen. C'est super important. Autrement, vous allez être des chrétiens qui ne vivent que pour ici, criant à Dieu pour des délivrances ici et maintenant, ce qui est légitime, ce qui n'est pas suffisant. Mais nos souffrances, nos maladies, la mort qui nous entoure, pointent vers cette vie à venir. Il y a un jugement qui repose sur l'humanité et la mort, la maladie vont être là jusqu'au retour de Christ pour nous le rappeler. Jusqu'au retour de Christ. C'est salutaire pour nos âmes. C'est salutaire. Troisième et dernier élément que je veux voir avec vous ce matin. Je vais être un petit peu plus bref, on va voir un mot de témoignage tout à l'heure. Bien souvent, la souffrance est le porte-voix de Dieu dans nos vies. Je crois que c'est C.S. Lewis qui a utilisé cette expression-là. La souffrance, bien souvent, est le mégaphone, le porte-voix que Dieu se sert pour nous parler et pour attirer enfin notre attention. Alors, quelques éléments à apprendre ici de ça. Premièrement, la souffrance sert à nous ramener à l'essentiel. Nous sommes des êtres profondément superficiels. Profondément superficiels. Même ceux qui ont des questions existentielles tout le temps, souvent nos plus grands plaisirs dans la vie sont des plaisirs assez superficiels. Et donc, c'est extrêmement facile pour nous de vivre juste dans l'instant présent, dans le plaisir du moment, à régler des problèmes pour savoir est-ce que je peux juste jouir de cette journée-là sans être en train de m'interroger sur des questions vraiment importantes. Dieu se sert souvent de la souffrance, de la maladie pour nous ramener à l'essentiel. Vous avez presque tous entendu des témoignages de gens autour de vous qui vous ont dit « cette maladie-là m'a amené à réfléchir ». Et Dieu se sert de la maladie comme ça pour attirer notre attention. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples à travers les Écritures de cela, d'accord? Où Dieu a attiré l'attention de gens à travers la souffrance. Richard Baxter, un excellent pasteur, a dit ceci comme ça. « La souffrance fait sauter les verrous du cœur et permet à la parole un accès beaucoup plus aisé. » Beaucoup plus aisé. Et lorsque Dieu va m'appeler à souffrir, je dois le voir comme un appel de Dieu où il veut attirer mon attention, il veut commencer à me parler. Et si tu passes par la souffrance et Dieu n'est pas présent dans ta vie, plutôt que de prendre cette souffrance-là pour t'en prendre à Dieu, cherche Dieu à travers cette misère-là, à travers cette souffrance-là. Parce que Dieu est probablement en train d'attirer ton attention. Et probablement que, comme le commun des mortels, si ta vie allait juste bien, si tu étais juste dans l'abondance, juste dans la parfaite santé, dans une santé parfaite, tu dirais comme la majorité des gens, « Qui a besoin de Dieu, mon homme? Qui a besoin de Dieu? » Mais Dieu se sent de la souffrance pour attirer notre attention, pour aller nous rejoindre là et donc pour deuxièmement nous faire grandir à travers la souffrance. On a lu tout à l'heure au début du message, juste avant le message, Romains 5, les versets 1 à 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » On attend de voir cette gloire de Dieu, cette vie qui nous attend après. « Bien plus !» Nous nous glorifions même dans les souffrances. Les afflictions, ce sont les souffrances, le terme qui est là. Sachant que la souffrance produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu se sert de la souffrance, de la maladie dans nos vies pour nous faire grandir. Et vous écouterez attentivement les témoignages que vous allez entendre pendant cette série-là. Si vous souffrez actuellement, si vous souffrez depuis longtemps, Dieu veut vous faire grandir à travers cette souffrance-là. Si votre souffrance est tellement aiguë, ça se peut que vous disiez, « Yannick, tu n'as aucune idée de quoi tu parles. Tu nous as dit que tu n'as jamais souffert terriblement, toi, Yannick. Donc, tu ne sais pas de quoi tu parles. Dans mon cœur, ce n'est pas « Quelle leçon, Seigneur, tu veux m'enseigner? » C'est « Pourquoi, Seigneur? » C'est correct. C'est correct. Ce sont ces moments où la souffrance est tellement aiguë que rien ne fait du sens. Mais quand cette souffrance-là s'apaise, à cet endroit-là, dans ce moment-là, Dieu est là dans l'intimité avec moi. Et Dieu veut me faire grandir. À travers sa parole, à travers un frère, une sœur qui m'accompagne dans la souffrance, à travers un moment de prière, Dieu veut me faire connaître qui je suis, qui il est, et il veut me transformer à travers cette souffrance-là. Dieu ne gaspille pas la souffrance de ses enfants. Est-ce que vous croyez cela? Dieu ne gaspille pas la souffrance de ses enfants. Dieu est un bon père. Et on n'a aucune raison de douter de sa bonté. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Dieu ne gaspille pas la souffrance de ses enfants. Seulement, à cet endroit-là, quand je suis dans la souffrance, je dois m'approcher de lui. Par tous les moyens qui sont à ma disposition, sa parole, les frères et sœurs, de bons conseillers qui ont eux-mêmes souffert peut-être, des conseillers bibliques dans la prière, dans la louange, en allant chanter des cantiques. Je vais m'approcher de Dieu et dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux former en moi? Qu'est-ce que tu veux former en moi? » Et j'ai appris à travers les années. J'ai appris à travers les années, lorsque je vois des gens autour de moi qui souffrent, lorsque Dieu amène la souffrance dans ma vie, j'ai appris à travers les années de plus en plus à embrasser cette souffrance-là, à l'accueillir. Et lorsque je vois des gens qui sont appelés, c'est clair, il y a eu des mauvaises nouvelles, ce sont des mois, voire des années de souffrance qui sont devant eux, j'ai appris à être triste, puis en même temps dans l'attente, dans l'expectative de ce que Dieu veut faire dans leur vie à travers ça. Dans certains cas, parce que je sais qu'ils se sauvent de Dieu en courant depuis des années, comme pasteur, je vous l'ai déjà partagé, il m'arrive même de dire au Seigneur, « Ah, c'est comme ça que tu vas le faire, Seigneur. » Ça fait des années qu'on prie pour lui. C'est comme ça que tu vas t'y prendre. OK, on va être là. On va être là, Seigneur. Tu as sorti ton porte-voix, Seigneur. Et enfin, à travers la souffrance, Dieu nous apprend. Dieu nous apprend à devenir des consolateurs. Dieu nous enseigne à devenir des consolateurs. Tout à l'heure, on a lu dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 6. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Le passage continue en disant, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. Tout à l'heure, j'ai commencé le message en disant que la souffrance est universelle, mais la souffrance souvent nous isole. Il ne doit pas en être ainsi dans la famille de Dieu. Ça ne doit pas se passer comme ça au milieu de la famille de Dieu. La souffrance de nos frères et sœurs autour de nous, nos souffrances, ne doivent pas produire l'isolement, l'isolation. Parce que dans cette salle, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont vécu toutes sortes de souffrances extrêmement lourdes, extrêmement dures, des détresses psychologiques, des deuils, des maladies physiques, des cancers, des épreuves personnelles. Des souffrances qui ont été infligées par la méchanceté de l'homme, d'autres qui relèvent essentiellement de la providence divine, parfois par leur propre bêtise, parfois par la bêtise des autres. Et ces gens-là ont rencontré Dieu dans leur souffrance et Dieu est venu les consoler dans leur souffrance. Et Dieu est venu les consoler afin qu'ils deviennent consolation pour les autres. Et donc, si c'est vrai, que la souffrance qui est universelle tend à nous isoler les uns des autres, il ne doit pas en être ainsi dans la famille de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu comme Église, là je m'adresse à l'Église de l'Espoir, à cette assemblée qui est l'incarnation très physique, très locale de l'Église universelle. Ici, l'Église a des visages et des noms, d'accord? Entre nous, nous sommes là pour accueillir la souffrance des autres. Quand vous apprenez que quelqu'un a souffert, une des pires choses que vous pouvez faire, c'est juste de ne pas reconnaître cette souffrance-là, de rien dire par malaise. C'est vrai que des fois, ça devient envahissant. Souvent, j'ai des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent, « Yannick, je suis un peu fatigué de venir à l'église parce que j'ai 40 personnes qui viennent me demander, « Puis comment ça va? Puis comment ça va? » C'est vrai, je comprends. Et si vous savez que la souffrance est longue, vous n'avez pas besoin d'être constamment aux nouvelles. Juste un regard, juste un sourire, juste dire, je suis avec toi, je prie pour toi. Je suis là, là. Simplement. Juste ouvrir une porte. Tu me fais signe. Des fois, c'est une erreur profonde juste de dire, fais-moi signe si tu as besoin. Non, des fois, on a besoin simplement de dire, je m'en viens. On s'en va prendre un café. Je ne file pas vraiment pour ça. Je le sais. Qui est allé prendre un café avec toi dernièrement? Ça fait un bout, je m'en viens. Ça ne me tente pas. C'est pas grave, je m'en viens. Je ne serai pas là longtemps, 10 minutes. Juste prier avec toi, juste être là avec toi. Et si vous voyez des gens qui arrivent ici, qui, par leur apparence, par leur manière d'être, par leur manière de se comporter, sont des souffrances sur pattes, ces gens-là ont besoin qu'on aille vers eux. Simplement mettre nos bras autour d'eux, simplement les approcher. Vous allez les décoder, vous vous approchez d'eux, vous allez voir dans leur visage s'ils se reculent, vous restez là à côté d'eux. Dites, si ça te tente d'en parler, j'aimerais ça t'écouter. Je n'ai pas de jugement sur mon cœur. Je sais qu'on va tous souffrir. Puis peut-être que Dieu va me donner une parole de consolation pour toi. Si vous sentez qu'il se laisse approcher, prenez-le. Prenez-le dans vos bras. Des fois, il n'y a rien d'autre à faire. Après ça, vous dites, je pense à toi cette semaine. La souffrance et la maladie ne doivent pas être un facteur d'isolement dans la famille de Dieu. Ça doit être un facteur de rapprochement. Parce qu'on a de l'expérience là-dedans. Puis on a de l'expérience avec Dieu dans la souffrance. On va tous souffrir. Dieu va nous consoler afin qu'on puisse consoler à notre tour. C'est bon? On veut que cette série-là soit pratique et concrète. On ne veut pas que ça reste de la théorie. Et donc, on a décidé d'avoir des témoignages pendant cette série-là. Et ce matin, on a pensé rendre ça assez concret pour notre famille, puisque c'est mon épouse Esther qui va venir donner un mot de témoignage. Et je vais inviter Annie et Esther à venir me rejoindre à l'avant. Je vais laisser Esther parler de ça. Elle connaît la souffrance que moi, je ne l'ai pas connue encore. Mais notre désir à travers ces mots de témoignage-là, c'est justement qu'on puisse se rapprocher les uns des autres. Et donc, Esther va nous partager des expériences personnelles à elle. Et on est là pour s'accueillir, on est là pour prendre soin les uns des autres. On va écouter ça ensemble.
Esther, on entend souvent parler de toi. La femme du pasteur, c'est une personne douce, souriante, patiente. Moi, je travaille avec Esther depuis plusieurs années. Ce matin, on va entrer dans un jardin secret de ta vie. Moi, je suis chanceuse, j'ai déjà eu un aperçu de ça. J'ai été extrêmement touchée par le témoignage d'Esther. Et ce matin, on va parler de la souffrance dans ta vie, d'un sujet qui n'est pas... c'est un sujet un peu tabou des fois. Alors, on va parler de la dépression. J'aimerais que tu puisses nous faire un portrait rapide, juste un peu factuel de qu'est-ce que tu as vécu au niveau de la dépression, les antécédents, puis les maladies physiques reliées à ça.
J'ai trois dépressions à mon actif. Une première, une dépression postpartum après mon deuxième enfant, qui est assez longue, ça s'est échelonné sur un an. On a arrêté à deux enfants. On n'a pas voulu recommencer. En 2005, j'ai eu une autre dépression très intense, plus courte, un 2-3 mois. J'ai pas eu de suivi ou d'aide médicale, mais beaucoup de pleurs et de prières. Puis, je m'en suis sortie. Puis, vers 2008, une dépression majeure aiguë. C'est environ un an. C'est plus de celle-là que je vais m'attarder dans le témoignage. Au niveau des antécédents familiaux, ils appellent ça comme ça, antécédents familiaux, c'est l'historique familial. Moi, j'ai les Gartins, les Poudriers. Chez les Gartins, il y a deux suicides, mon grand-père et un cousin. Et les Gartins et les Poudriers ensemble, il y a plusieurs maladies mentales et dépressions. Fait que c'est considéré par le médecin comme des antécédents lourds. Physiquement, psychologiquement, je me suis toujours trouvée fragile, trop émotive. C'était pire après les accouchements. Je disais à Yannick que j'avais la maladie des émotions. Vous savez, les autistes, ils n'ont pas assez d'émotions. Ben moi, j'en ai trop. Fait que je disais que j'avais la maladie des émotions. Des fois, c'est un petit peu fatigant d'en avoir trop. Fait que je me suis toujours considérée comme fragile et très émotive, sensible. Puis sur le plan physique, j'ai pas de la souffrance du tout comme Irène, mais j'ai des facteurs qui viennent mettre la table à une souffrance psychologique. Quelques mois après notre mariage, une mononucléose qui m'a enlevé mon énergie, je ne suis jamais revenue comme avant. Je suis restée de là avec la fatigue. La fatigue s'est installée dans ma vie pour ne jamais repartir. Et j'ai commencé à m'endormir dans les cours à l'université, m'endormir au travail, m'endormir partout. Fait que dès que j'avais la chance, je faisais des siestes. Et aujourd'hui, je suis à la maison, je fais des siestes à tous les jours. Je t'offre pas ma journée. Je n'ai pas assez d'énergie pour faire une journée sans sieste. J'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Fait que je fais des siestes, je n'ai pas d'énergie. Avec cette fragilité physique-là, on dirait que les blessures que tout le monde peut avoir dans la vie, ils me collent à la peau, ils ne guérissent pas. Je devais marcher, je devais faire de l'exercice à tous les jours. J'avais entrepris de la marche active d'une heure à tous les jours. J'ai fait ça pendant 2 ans jusqu'à ce que j'ai une fasciite plantaire. Elle ne guérit pas, elle n'est pas aiguë comme au début, mais ça reste chronique. J'ai eu une bursite à l'épaule, c'est jamais parti complètement. J'ai eu un accident de voiture, je reste avec des maux de dos On dirait que chaque blessure, je les collectionne. Ça devient comme de la douleur chronique. C'est pas du tout aigu, mais c'est fatigant. J'ai-tu tout dit?
Oui. OK, alors 2008, oui. Diagnostic de dépression majeure aiguë.
Oui.
J'ai déjà été déprimée dans ma vie parce qu'il faisait pas beau. Mais la manière que tu dépeins ça, moi, j'aimerais ça que tu puisses l'expliquer aux gens. En fait, c'est quoi vivre la dépression au niveau de ton corps, de ton âme? Je veux que tu me racontes c'est quoi la dépression.
La dépression majeure, c'est une maladie. Il y a des facteurs qui amènent ça, mais c'est une maladie. La première chose que je voudrais décrire, c'est le sentiment de tristesse. La tristesse omniprésente, toujours là. C'est fatigant, ça te colle à la peau. Puis moi, j'aime la nature, j'aime sourire. Fait que la tristesse n'est pas en lien avec la réalité. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de situation triste. C'est déconnecté de la réalité. Alors, je passe devant ma fenêtre de salon, je vois les arbres que j'aime toujours voir, puis au lieu de la joie, c'est de la tristesse. Fait que c'est fort. Ça n'a pas rapport avec la réalité. C'est comme ça disjoncte dans le cerveau. Il envoie l'émotion de tristesse au lieu de... Il n'envoie pas la bonne émotion. Puis il l'envoie tout le temps, cette émotion-là. Vous savez, comme le « repeat », OK, là, comme un disque qui saute, là, c'est rester accroché là-dessus. Fait que je demandais à Dieu de m'aider, puis je marchais. À ce moment-là, je ne suis pas capable de rien faire. Je ne fais pas de tâche, je ne fais rien. Je marche dans la maison, je regarde d'une fenêtre à l'autre. Puis à un moment donné, une demi-heure après, je repasse devant la fenêtre de salon, je vois les arbres, ah, je ne suis plus triste. C'est parti. Là, je dis « Merci Seigneur, tu m'as aidé. » Et là, ça se fait plusieurs fois par jour. Ça revient, la tristesse, aucun rapport. Je demande à Dieu de m'aider, puis j'attends. Je marche, je regarde les choses, j'attends. À un moment donné, la tristesse n'est plus là. Je remercie Dieu. Ça, c'est au niveau de la tristesse. Une autre chose, c'est le sentiment de mort. C'est ce qui est le plus difficile dans la dépression majeure. L'émotion, le sentiment de mort qui est là. Je vais essayer de l'expliquer. C'est comme si je marchais dans le salon, j'avais l'impression que j'allais tomber par terre puis mourir. Comme ça. Mais ça ne se passait pas. Mes jambes me tenaient. Mon cœur continuait à battre. Mes poumons continuent à respirer, mais ma tête accroît que je meurs. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Le réflexe de survie qui est à chaque être humain, il est à off. Il n'y a plus de réflexe de survie. Alors, c'est un sentiment de mort qui est omniprésent et je me battais contre ça. Et c'est ce que j'ai dit au psychiatre. J'ai dit, lutter pour survivre, c'est ce que je trouve le plus difficile. C'est le pire dans la dépression majeure. Je ne voulais pas mourir. Je sentais que je mourais. Fait que c'est, puis j'ai compris dans mes tripes que quelqu'un pouvait se suicider par folie et non pas par désespoir ou égoïsme. Toutes ces choses-là sont possibles. Mais on peut perdre la tête et s'enlever la vie pensant qu'on va survivre. C'est fou à dire, mais ça serait un geste, dans ces cas-là, c'est un geste de survie. Tu penses que tu vas améliorer ton sort, arrêter une souffrance, sans réaliser que c'est final. Alors, je luttais. Ce que je faisais la technique à Joseph. Joseph avec la femme de Potiphar, quand il a été tenté par une femme, il a, il est parti. Il a pris ses jambes à son cou, puis il est parti. Il n'est pas resté là devant la tentation. Fait que quand ça venait, je changeais de pièce dans la maison. Je changeais d'émission de radio, je changeais mon regard de place, je changeais mes idées. Je ne voulais pas penser à ça. Je changeais, je priais Dieu, je faisais tout. Fait que c'est vraiment une lutte. C'est un combat de lutter contre ça. Puis dans le jargon médical, ils vont évaluer si une personne a un plan, si elle est rendue à un plan pour mourir, si elle a pensé comment elle allait faire. J'avais pas de plan. J'étais pas rendue là, mais je m'interdisais d'y penser. J'ai vraiment la technique de Joseph, là, constamment. Fait que c'était une lutte. J'ai-tu tout dit?
OK. J'aimerais qu'on se tourne un peu plus maintenant sur comment Dieu a répondu à tes besoins dans tout ça, parce que t'as pas vécu ça toute seule, t'as vécu ça avec Dieu.
Oui.
Alors, on a parlé de dépression avant, ta dépression majeure. Est-ce que tu crois que Dieu t'avait préparé à cette dépression-là? Préparé à t'en sortir?
Oui. Oui, il y a des choses que j'avais apprises avant, soit avec les deux autres dépressions ou avec d'autres circonstances. Une chose que j'ai appris avant, c'est d'accepter mes limites parce que je me sentais incapable. J'étais une femme à la maison, puis je suis toujours fatiguée. T'sais. Fait que d'accepter mes limites, de dire, Seigneur, tu m'as créé limitée, tu permets ça. Fait que ça, j'avais déjà accepté ça avant. Fait que ça m'avait préparé pour aller encore plus creux. Quand j'ai eu une coccygectomie en, je sais plus, 2006-2007, c'est une l'ablation du coccyx, il coupe la colonne. Au réveil, ça a été un mois, 6 mois de convalescence, là, mais un mois de douleur physique aiguë. Aiguë, là, c'est pas psychologique, c'est physique. Puis quand la douleur te lâche pas, puis que les médicaments sont pas suffisants, t'apprends la patience. La patience, c'est quoi? C'est endurer avec une bonne attitude. J'endure avec foi. Je demande à Dieu de m'aider, puis j'attends, puis je reste là tranquille devant Dieu. Comme soumise, comme j'attends. Fait que j'avais appris la patience dans la douleur avant. Fait que dans la dépression, quand je demandais de l'aide à Dieu, je faisais juste attendre. Puis je doutais pas, Dieu allait faire quelque chose à un moment donné. Même si c'était lourd, fait que j'ai appris la patience. J'ai appris à faire confiance à Dieu. Je ne sais plus où j'en suis.
Moi, j'aimerais que tu me dises, pour terminer, qu'est-ce que tu as appris sur Dieu?
Sur Dieu. Dieu est bon. honnêtement, là, vivre ça sans Dieu, je ne sais pas comment les gens font. C'est moi, j'avais mon mari, mais mon mari ne peut pas comprendre. C'est impossible. Pour que quelqu'un comprenne, il faut qu'il le vive. Mais je ne souhaite pas ça à personne. Je ne souhaite pas d'être compris parfaitement par personne. Je ne veux pas que personne vive ça. Fait que juste sa compassion puis qu'il imagine, c'est suffisant. Mais Dieu, lui, il est là dans mon intimité. Mon mari n'est pas là dans mon intimité. Puis les gens sans Dieu, ils n'ont pas Dieu dans cette intimité-là. Fait que Dieu, il était là dans mon cœur. Puis, une fois, un des moments les plus creux, j'étais couchée sur mon lit en petite boule, là, en position fœtale. Je ne sentais plus mes membres, j'étais engourdie. Je faisais juste pleurer, mais j'avais plus de larmes, c'était sec. Yannick qui travaillait dans son bureau à côté, puis il venait me voir à toutes les 15 minutes pour voir comment j'allais. Je dis, ça va pas. Mais je dis, je vais attendre. Il retournait travailler, revenait 15 minutes plus tard. Fait que moi, je priais. Puis ça, ça a été un des pires moments, les plus creux. Puis j'ai dit à Dieu, j'ai crié à Dieu. Crier, là, c'est le mot. OK? C'était en silence. Je pleurais pas de larmes, je criais sans crier, mais je criais. J'ai crié à Dieu parce que c'était comme trop. Puis ça sonnait à la porte. J'allais pas me lever pour quelqu'un qui venait. Tant pis. Je me sentais plus mes membres, j'allais pas bouger de là. Fait que j'ai dit tant pis. Puis après ça, Yannick est venu me voir quelques minutes après. Il a entendu, il devait avoir ses bouchons pour travailler. Fait qu'il est venu, puis il dit, ça sonnait à la porte. Je dis oui. Il dit, t'es pas allé? Je dis non. Fait qu'il est allé voir à la porte. Puis il revient, il m'appelle. Il y avait une boîte pleine de repas devant la porte de la maison. Yannick m'a appelé, puis j'ai vu ça. Je suis partie à pleurer, là, j'avais des vraies larmes cette fois. Puis j'ai entendu Dieu qui m'a dit, comme si Dieu me l'avait dit audiblement, « Je t'entends, j'entends tes prières, je m'occupe de toi. » J'ai serré ça dans mon cœur. Je ne doutais pas de Dieu. Mais je pense que Dieu, dans sa sagesse, il a cru bon de soutenir ma foi. Quand il dit qu'il ne nous envoie pas d'épreuves au-delà de nos forces, puis qu'avec chaque épreuve, il envoie un moyen pour en sortir, bien, ses promesses sont vraies. Fait que ma confiance en Dieu est juste encore plus grande. Je dirais que je suis obstinée à croire en Dieu.
Merci, Esther.
C'est ma femme, celle de l'autre côté. Quand même, hein? Vous savez comment j'ai été attiré par Esther? On priait le groupe de jeunesse ensemble. Puis à un moment donné, je l'ai entendu prier. Puis je dis, waouh, je pense que celle-là, j'aimerais ça l'épouser. En l'entendant prier. Mais c'est Dieu qui est extraordinaire. C'est Dieu qui nous accompagne dans ça. C'est Dieu qui vient nous rejoindre là. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à venir nous rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. On va aller exprimer ensemble à Dieu combien il est précieux pour nous et combien on a besoin de lui. D'accord? Et j'aimerais prier pour toute l'assemblée. Merci, chérie, pour ton témoignage. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Père céleste, tu es fidèle. Et fidèle, Seigneur, pour prendre soin de nous, pour venir nous rejoindre au milieu de la souffrance, Seigneur, au milieu de la maladie. Tu entends nos cris, tu entends notre douleur, Seigneur. Tu as expérimenté toi-même un désespoir sans fin, Seigneur Jésus. Sur cette croix, quand tu t'es crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La raison ne suffisait plus, Seigneur, à expliquer ta douleur et ta souffrance. Seigneur, je veux te remercier pour la foi que tu as donnée à Esther dans ces épreuves terribles, Seigneur. Je veux te remercier pour la foi que tu nous donnes lorsque nous passons par l'épreuve. Je veux te remercier pour tes promesses. Tu as promis dans ta parole qu'aucune épreuve ne serait au-delà de nos forces, Seigneur. Mais à celui qui se confie en toi, tu veilles sur nous comme un bon père. Et tu viens nous rejoindre là dans la souffrance pour nous amener ailleurs, pour nous faire grandir, Seigneur. Je te prie, Père, pour ceux d'entre nous qui souffrent actuellement, Seigneur. Je prie de venir apporter ta consolation, de l'espoir, Seigneur. Venir leur dire à travers ces témoignages, à travers ta parole, à travers les frères et sœurs que tu es là, que tu comprends, que tu accompagnes, Seigneur. Viens nous faire grandir dans ces moments de souffrance. Et Seigneur, pour ceux et celles qui sont en chicane avec toi, à cause de la souffrance dans le monde, à cause de la souffrance autour d'eux, à cause de la souffrance dans leur vie. Viens les chercher, Seigneur, et attire-les à la croix de Jésus-Christ à cause de cette souffrance, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.